Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour. Plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées ce lundi à cause d'une bombe retrouvée à Kuřim, près de Brno. Le gouvernement tchèque veut fusionner les agences Czech Invest, Czech Trade et Czech Tourism. Et puis en ski alpin, Esther Ledecka a terminé 3e du combiné de Grand Montana. Une bombe de 50 kilos datant de la Deuxième Guerre mondiale a été retrouvée dimanche soir sur le territoire de la commune de Kuřim, près de Brno en Moravie, par un homme équipé d'un détecteur de métaux. Plus de 300 personnes ont dû être évacuées ce lundi matin, dont les élèves d'une école professionnelle. Des démineurs sont parvenus à transporter l'engin explosif largué à l'époque d'un avion pour procéder ensuite à sa liquidation dans un endroit sûr. L'évacuation a pris fin dans le milieu de la matinée. Des bombes datant de la guerre sont retrouvées de temps en temps en Tchéquie l'année dernière en Moravie et également à Liberec où 5000 personnes avaient dû être évacuées en septembre dernier. L'un des points à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce lundi était le projet de loi visant par souci d'effectivité à rassembler les trois agences gouvernementales que sont Czech Invest, Czech Trade et Czech Tourism, chargées de la promotion du pays et du soutien à ses entreprises. Le projet prévoit de réunir ces trois agences sous le même toit au siège actuel de Czech Invest dans la rue Štěpánská à Prague. Ce projet suscite des critiques, notamment de la part de la Chambre de commerce tchèque. À la place de changements révolutionnaires dans le soutien aux entreprises et à l'export, il s'agit d'un simple déménagement de ces institutions sans changements fondamentaux ni audit approfondi de leur fonctionnement. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué publié ce week-end par la Chambre de commerce. À partir de ce week-end, les limitations, depuis ce lundi donc, les limitations et ralentissements et les embouteillages potentiels redeviennent le pain quotidien des automobilistes empruntant l'autoroute D1, un des axes principaux du pays reliant Prague à la deuxième ville tchèque, Brno. Les travaux de modernisation de l'autoroute reprennent ainsi progressivement après la trêve hivernale, à plein à partir du 6 mars prochain. 7 tronçons sont concernés par les limitations de vitesse. Des radars seront installés afin de contrôler si les automobilistes respectent la vitesse maximale de 80 km/h. Les travaux de modernisation de l'autoroute D1 ont commencé en 2013. Pour l'heure, 90 km en tout ont été réparés. 2021 est la date prévue de la fin des travaux. Coronavirus, la République tchèque participe une fois de plus à l'aide de plusieurs pays européens cofinancés par l'Union européenne à destination de la Chine. En proie, vous le savez, à une épidémie de coronavirus, un avion contenant de l'aide humanitaire tchèque a décollé de Vienne dimanche. C'est ce qu'a fait savoir le ministre tchèque des Affaires étrangères, Tomáš Petříček. La République tchèque envoie quelques 4,5 tonnes de matériel médical, dont des masques, des gants en latex et du désinfectant notamment. Lundi, le gouvernement tchèque a également approuvé l'envoi d'un autre convoi aérien humanitaire avec 7 tonnes d'équipement médical. L'avion militaire le transportant devrait partir pour la Chine à la fin du mois de février. Du sport avec, je vous le disais en titre, du ski et la Tchèque Esther Ledecká, double championne olympique en 2018 de super-G et de snowboard, qui a pris la 3e place du combiné alpin de Grand Montana. C'est en Suisse. L'épreuve a été remportée par l'italienne Federica Brignone et qui s'est également imposée devant l'autrichienne Franziska Gritsch, qui prend la tête du classement général. Médaille de bronze donc pour Esther Ledecká qui monte en flèche en cette saison 2020. Voilà pour les infos. Pour plus d'infos, c'est sur notre site www.radio.cz avec un point sur la météo et les vents qui ont soufflé encore une fois très fort dans la nuit de dimanche à lundi en Tchéquie.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Alexis Rosenzweig pour son bulletin d'information. Cette tombe datant de la fin du premier millénaire, soit de l'époque du tout premier État slave en Europe centrale, ont été découvertes dans le sud-est de la République tchèque. On parlera ensuite d'un documentaire qui fait froid dans le dos puisqu'il s'intéresse aux abus sexuels sur mineurs via Internet. Et on terminera heureusement avec un sujet plus léger, avec le départ samedi à Prague d'une expédition autour du globe en camion de la marque Tatra. Bonne écoute. « Cette tombe datant de l'époque du royaume de la Grande Moravie, soit de la fin du premier millénaire de notre ère, ont été récemment découvertes à Stará Město, près de la ville d'Uherské Hradiště, dans le sud-est de la République tchèque. Une surprise pour les archéologues tchèques, puisque la zone en question avait déjà été fouillée en profondeur il y a de cela 70 ans.
La zone a été fouillée au tournant des années 1940 et 1950. À l'époque, on y a mis au jour des centaines de tombes datant du royaume de la Grande Moravie. Mais visiblement, des tombes ont échappé à la vigilance de nos collègues d'antan.
Ludiek Galouchka est archéologue au musée Morave. C'est lui qui est chargé du chantier situé sur le site où doit justement bientôt voir le jour un centre archéologique dédié à l'époque de l'évangélisation de la région par Saint-Cyril et Méthode. Ces deux missionnaires originaires de l'Empire byzantin ont été envoyés en 863 dans la région par l'empereur à la demande du prince Rastislav afin d'évangéliser les habitants de la Grande Moravie. Ce royaume, né 30 ans plus tôt, s'étendait alors sur les territoires des actuels République tchèque, Allemagne orientale, Slovaquie, nord de la Hongrie, sud de la Pologne et ouest de l'Ukraine. Le royaume de la Grande Moravie est considéré comme le tout premier État slave occidental en Europe centrale et perdure de 833 jusqu'au début du Xe siècle. Les sept tombes qui viennent tout juste d'être mises au jour contiennent des squelettes dont l'état de préservation diverge. À côté de certaines dépouilles, les archéologues ont également découvert plusieurs boucles d'oreilles en argent et même une boucle d'oreille dorée, comme le relève Martina Fojtová, anthropologue au musée Morave.
D'après les boucles d'oreilles, nous pouvons déduire qu'il s'agit de femmes pour la plupart. Et dans un cas au moins, ce devrait être une très jeune fille. En effet, les épiphyses des os les plus longs ne se sont pas encore soudés à l'os. C'est quelque chose qui intervient aux alentours de 18-20 ans.
D'après l'analyse des bijoux retrouvés, il s'agirait de jeunes femmes issues d'une classe sociale aisée, comme le détaille encore Ludiek Galouchka.
En ce qui concerne la jeune fille, en tout cas, elle devait faire partie de la haute société du royaume des Grandes Moravies. On date la dépouille de la seconde moitié du IXe siècle. Cela veut donc dire qu'elle a dû être contemporaine du prince Rastislav ou de son successeur Svatopluk, voire même de Méthode lui-même.
Les squelettes vont désormais faire l'objet de recherches poussées, dont des analyses de l'ADN avant de rejoindre les collections de l'Institut Anthropos au musée Morave de Brno. Quant au chantier du centre archéologique dédié à la période de l'évangélisation de la région par Saint-Cyril et Méthode, il va pouvoir reprendre. Lancé fin décembre dernier, les travaux devraient durer au moins 2 ans, avec une ouverture des portes au public prévue en juillet 2022. Le centre sera à la fois un lieu de recherche scientifique moderne et un lieu d'accueil du grand public qui entend casser les codes traditionnels avec des expositions multimédia et sensorielles. Le centre est symboliquement édifié sur le lieu de cette grande nécropole dont le centre névralgique était une église grand morave. La toute première bâtisse datant de l'existence de cet état slave découverte sur les territoires tchèques. C'est un film qui fait beaucoup parler de lui avant même sa sortie ce jeudi. Citier Caught in the Net en anglais, un titre que l'on pourrait traduire en français comme Dans le piège de la toile, est un documentaire traitant des abus sexuels en ligne sur mineurs. Filmé pendant 10 jours devant leur ordinateur, 3 jeunes actrices avec de faux profils, les présentant sur les réseaux sociaux comme des filles âgées de 12 ans, ont été contactées par plus de 2400 hommes. Choquante pour beaucoup, cette expérience filmée met en lumière un phénomène encore peu exploré en République tchèque, comme nous le raconte Magdalena Hrozinková.
Je 12. To nevadí?
A nevadí, že jeme 12? A fakt ti nevadí, že jeme 12?
J'ai 12 ans, ça va? Cette question est le fil rouge qui traverse le documentaire Vsítě, tourné par Vít Klusák, un des documentaristes les plus en vue en Tchéquie, et Barbora Chalupová. L'idée du film est venue à Vít Klusák il y a 3 ans, lorsqu'une société de télécommunications lui a demandé de tourner une vidéo virale sur les dangers du harcèlement sexuel en ligne, auquel, en République tchèque comme ailleurs, un nombre toujours croissant d'enfants et d'adolescents est confronté. Intéressés par le sujet, Vit Klosak et Barbora Khalupova ont alors effectué une première expérience en postant sur plusieurs serveurs le profil d'une jeune fille imaginaire, Tinushka, âgée de 12 ans. En l'espace de quelques heures, plus de 80 hommes adultes étaient entrés en contact avec elle pour lui adresser des messages à caractère sexuel. Anechka Pedhartova, 22 ans, a vécu la même expérience après avoir été choisie par les réalisateurs pour le documentaire. Anechka et deux autres jeunes femmes, trois adultes avec un physique d'adolescente, ont été filmées 10 jours durant dans des chambres d'enfants. Soutenues par une équipe composée de psychologues, de sexologues, de criminalistes et de juristes, elles ont communiqué du matin au soir avec des centaines d'hommes qui menaient avec elles des conversations intimes, leur envoyant leurs photos et vidéos sur lesquels ils apparaissaient nus ou le plus souvent se masturbaient devant une caméra web. Autant d'hommes pleinement conscients du fait qu'une gamine de 12 ans était assise devant l'écran. Bien que préparée à l'avance à ce comportement, Anechka Pedhartova a raconté à la radio tchèque avoir été choquée par l'agressivité des échanges.
Je ne m'attendais pas à être confrontée à un mal très sophistiqué, à une manipulation, à un chantage peut-être. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est l'arrogance de ces hommes. Ils n'investissent aucune énergie dans la conquête de leurs victimes. Ils y vont droit au but et c'est cette impatience qui me frustrait le plus.
Cette expérience filmée, qui montre également des rencontres arrangées entre les trois filles et quelques-uns des prédateurs sexuels présumés, n'est-elle pas davantage une fiction qu'un documentaire ? Le réalisateur Vit Klosak explique son approche.
Je pense qu'il s'agit bien d'un documentaire. Le film révèle une réalité telle qu'elle existe. Nous n'avions pas d'autres moyens pour la mettre en lumière. Aucun enfant de 12 ou 13 ans ne nous laisserait entrer dans sa chambre avec une caméra pour que l'on suive sa conversation intime avec un homme de 45 ans. Il a donc fallu que nous mettions en place nous-mêmes ces trois chambres d'enfants pour y placer des actrices adultes. Elles ont vu d'innombrables scènes sexuelles pendant le tournage et bien évidemment, nous n'aurions pas pu mener cette expérience avec des enfants.
Un des objectifs des réalisateurs était d'en savoir plus sur les profils et les motivations des harceleurs en ligne, Vit Klosak.
Il s'est avéré, et c'est ce que nous ont confirmé les experts, qu'il s'agit souvent d'hommes blasés du porno. Seuls 3 à 5% de ceux qui approchent les mineurs sur Internet sont des pédophiles. Tous les autres sont des hommes avec un profil psychosexuel normal. Simplement, le porno ne les excite plus et c'est pourquoi ils cherchent une personne, en chair et en os, qui leur fournisse des photos ou des vidéos dénudées. Ten materiál, ty fotografie nebo videa. Často jsme mohli nahlížet na naprosto autentické profily těch chlapů.
Lors du tournage, nous avons vu les profils authentiques de ces hommes avec leurs photos de famille. Ils ne cachent même pas qu'ils ont des enfants, qu'ils mènent une vie ordinaire. Nous n'avons pas eu affaire à un cas type de prédateur sexuel. C'était des hommes âgés de 17 à 70 ans. Via Skype, nous pouvions voir l'intérieur de leur appartement. Souvent, c'était des hommes apparemment assez riches, mais il y a eu aussi un chauffeur de taxi ou des étudiants à l'université qui se préparaient pour des examens. Bref, toutes sortes de gens.
Kdokoliv, koho si představíte. Uvízla jsi v síti a teď mi svítíš do špelunky všechny tvý buňky mnou tmavnou. Roste tvá zvědavost a pavouk nemá dost, to jediné, co mu udělá dobře je kou. Je doma máma.
La police présente tout au long du tournage a déjà accusé plusieurs personnes qui apparaissent dans le documentaire. Celui-ci sortira en salle en 2 versions, pour les adultes et pour les enfants âgés de plus de 12 ans qui devront être accompagnés de leurs parents. Une version raccourcie du film sera également projetée dans les écoles dans le cadre d'un projet pédagogique. Il comprendra aussi des débats avec les réalisateurs et les trois protagonistes.
Un camion de la marque Tatra a entamé samedi à Prague un tour du monde qui, d'ici 2023, fera parcourir 270 000 km dans 69 pays de 5 continents à son équipage. Appelée Tatra Autour du Monde 2, cette expédition fait suite à une première entreprise du même nom lancée en Tchécoslovaquie à la fin des années 1980. Guillaume Narguet.
Un nombre public a assisté samedi après-midi devant le bâtiment du Rudolfinum dans le centre de Prague au départ de ce deuxième tour du monde entrepris au volant d'un camion du célèbre constructeur tchèque. Ce périple de 3 ans sera divisé en 3 étapes. La première, longue de 9 mois et de 70 000 km à travers 22 pays, mènera ses participants jusqu'à Vladivostok après des traversées des Balkans, de la Turquie, du Proche-Orient, du Caucase, de la Mongolie et de la Sibérie. Les membres de l'équipage sont au nombre de 5 et parmi eux, Petr Holeček est celui qui passera l'essentiel du temps au volant du camion, un T815-4-4 sorti des usines de Kopřivnice en Moravie en 2005 et adapté aux exigences de l'aventure. Petr Holeček.
Auto.
Le camion est un Tatra et c'est un véhicule tchèque de A à Z. Il a fallu l'adapter à toutes les conditions auxquelles nous serons confrontés durant notre expédition. Par exemple, nous avons besoin qu'il puisse rouler avec tous les types de carburant. À l'origine, c'est un camion militaire que nous avons transformé. Il fallait qu'il soit beau et que nous puissions vivre dedans. Beaucoup de monde et d'entreprises ont proposé de nous aider, notamment pour des adaptations que Tatra ne fait pas forcément, comme par exemple la climatisation double flux. Sans toute cette aide, nous ne serions sans doute jamais partis.
L'itinéraire ressemblera à celui de la première expédition Tatra autour du monde, effectuée entre 1997 et 1990, cette fois au volant d'un T815 GTC. C'est ce modèle, le T815 donc, qui à la même époque avait permis au légendaire pilote tchèque Karel Loprais de remporter à 6 reprises le Rallye Dakar. Comme à l'époque de la Tchécoslovaquie communiste, un des principaux objectifs de ce deuxième tour du monde sera de faire la promotion de la République tchèque et de ses produits au-delà de ses frontières, et ce, comme l'a confirmé peu avant le départ de Prague, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Karel Havlíček.
Il aurait été dommage que l'État ne profite pas de cette opportunité de présenter ce que nous savons faire dans près de 70 pays du monde. Nous possédons de nombreuses institutions partout dans le monde qui servent justement à représenter les intérêts et à promouvoir l'image de la République tchèque à l'étranger. Tatra est une marque tchèque mondialement connue, comme il en existe peu. Nous pouvons encore citer les chaussures Batia, les voitures Škoda, les motos Java ou encore Kohinoor, fabricant de crayons et d'articles d'art, et Tatra et ses camions. Montrons donc que nous sommes de bons entrepreneurs, que nous possédons une riche tradition technologique et que nous savons mettre en valeur notre savoir-faire.
Après un transfert de 2 mois en bateau de Vladivostok au Chili, la deuxième étape, longue cette fois de 11 mois et de 120 000 km dans 18 pays, permettra à l'équipage de découvrir cette fois l'Amérique du sud jusqu'au nord. Marek Havlíček est un autre membre de l'équipage. On l'écoute.
Ce projet repose sur plusieurs piliers. Il s'agit d'abord de rappeler la première expédition tchécoslovaque partie il y a plus de 30 ans pour ne pas qu'elle tombe aux oubliettes. À l'époque, cette expédition avait alors éveillé chez les gens à la fois un désir de voyage et de liberté. Même si nous disposons aujourd'hui de cette liberté, nous voudrions que les gens continuent d'élargir leur horizon.
Parti en mars 1987, la première expédition était revenue 37 mois plus tard, en avril 1990, dans une Tchécoslovaquie que la révolution et la chute du régime communiste quelques mois plus tôt avaient rendue de nouveau libre. Ce premier tour du monde avait été marqué entre autres par l'arrestation et l'emprisonnement de l'équipage durant plusieurs jours au Guatemala et la mort d'un des hommes de bord au Pakistan lors de la traversée de la rivière Hunza. Un peu plus de 30 ans plus tard, même si tous les risques n'ont pas disparu, les conditions ne seront probablement plus les mêmes, comme le suppose Katerina Bochkova. Katerina Bochkova, une des deux femmes présentes à bord du camion.
Ce que vous vivez de vous-même est ce qui fait le vrai charme et l'intérêt des voyages. Même si vous trouvez aujourd'hui des informations dans tous les types de médias sur des endroits les plus reculés dans le monde, rien ne remplacera jamais le vécu sur le terrain. Ce que nous voulons donc montrer aux gens, c'est comment les gens vivent dans des pays que nous allons traverser, par exemple comment les enfants vont à l'école en Mongolie ou au Tadjikistan. C'est pourquoi nous sommes une expédition ouverte. Les gens qui le souhaitent peuvent participer à notre aventure et faire un bout de chemin avec nous. Tous les participants auront un rôle à jouer dans l'équipe. Quelqu'un s'occupera de la navigation, quelqu'un d'autre des courses et de la cuisine, peu importe. Chacun aura des obligations en fonction de ses possibilités.
Avec 14 sièges et 20 places pour dormir à l'arrière, le camion accueillera tout au long du périple ceux qui souhaitent participer à l'aventure et qui ont participé également au financement d'un projet dont le montant, frais tout compris, est d'environ 1 million d'euros. Enfin, à la troisième et dernière étape, cette fois de 9 mois et 80 000 km, proposera une remontée de l'Afrique depuis le Cap jusqu'au Maroc, en passant par de nombreux pays francophones. Puis s'en suivra la remontée finale vers Prague via l'Espagne, la France et l'Allemagne. Il sera alors temps, 1095 jours après le départ, de célébrer un constructeur automobile qui, après une longue crise qui avait abouti à sa vente aux enchères en 2013, renaît littéralement de ses cendres depuis quelque temps, et ce comme s'en réjouit Petr Holeček.
Le Tatra est un phénomène comme il n'existe pas ailleurs, avec une conception que nous sommes les seuls à posséder grâce au châssis central développé il y aura bientôt 100 ans par Hans Ledwinka. C'est incroyable tout ce dont ces camions sont capables, et ils sont l'héritage du génie technique de nos ancêtres. Bon, d'accord, Ledwinka n'a jamais parlé tchèque, mais tout cela s'est passé dans notre belle région de Bohême-Moravie.
Ne reste donc désormais plus qu'à répandre la bonne parole de Tatra et des produits tchèques partout dans le monde.
A tohle to jsou první metry expedice Tatra kolem světa 2, která se vydává na východ směrem do Brna, na Slovensko a potom dál a dál.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Merci de l'avoir suivi. Tous ces sujets, mais bien d'autres encore en français toujours, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, mais également sur les réseaux sociaux. Je vous invite à consulter notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre profil Instagram. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.